implanter votre réseau de résistance?
Le réseau, je viens de le dire, le responsable météorologue, et moi j'étais à Gompan. Là, ça s'arrêtait là.
Et donc ça couvrait quelle zone exactement à peu
Alors,
près
ça couvrait, parce que la résistance, il y avait dans le maquis alors, parce qu'il faut faire la différence. Et dans la résistance, beaucoup pensent que c'était le maquis. Il n'y avait pas que le maquis. Il y avait le maquis, qui était la chose armée. Hein, et puis, il y avait à côté des maquis, ce qu'on a appelé, disons, les résistants légaux. C'est un mot que je n'accepte pas parce qu'on n'était pas dans la légalité. Hein. Et disons que, alors, dans les maquis, ceux qui étaient au maquis perdaient leur personnalité, et ils n'avaient plus qu'un numéro. Et disons que c'était. Voilà. Tandis que nous, eh bien nous étions dans nos familles, nous étions normalement, c'est pour ça qu'on dit légaux. Hein, mais nous menions une résistance. Et surtout, ce qu'il fallait et ce qui était efficace pour que ceux qui étaient dans le maquis ne meurent pas de faim et aussi une assistance morale, oui. C'était très très important. Eh bien, c'est nous qui essayons d'apporter le plus possible pour qu'ils puissent se faire tous les jours manger, non pas à leur faim, mais presque, parce qu'il y a eu souvent de fois que dans les maquis, ils n'ont fait qu'un repas par jour. Il y a eu quelques fois qu'ils ont sauté une journée où ils n'ont rien eu à manger. Et ça aussi, eh bien, c'était nous, dans la résistance légale, eh bien, qui essayons d'apporter. Alors, nous avons eu d'innombrables choses. Par exemple, il y avait une organisation qui était très, très importante et très bien faite. Nous avions un camarade qui était... Pardon. Nous avions un camarade qui était, disons, le président de la maison de retraite du Luc, Lucien Sicard. Et lui, Lucien Sicard nous rendait un service énorme. Il rendait un service énorme en ce qui concerne le maquis du Campaeta, parce qu'il pouvait lui déposer certaines denrées que nous ne pouvions pas faire. Et disons, lui aussi, par exemple, il ne pouvait pas, dans le maquis, il ne pouvait pas faire de feu par rapport à la fumée, ça se conçoit. Et c'est lui que lorsqu'il y avait de la viande ou quelque chose à faire cuire, qui le faisait cuire dans la maison de retraite et qui était ensuite apporté, disons, au maquis. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose de très, très important. Alors, nous, en ce qui concerne, par exemple, la nourriture du maquis, eh bien, c'était tout ce qu'on pouvait. Quelquefois, on allait voir... Quelquefois, oui, on est allé bien quelquefois voir des bergers qui, certains, nous ont accepté de donner des bêtes hein, pour le maquis. D'autres, il y a eu des bergers qui étaient, non, il n'y avait rien à faire. Alors, pour eux, c'était malheureusement, eh bien, quand un berger, normalement, nous le donner volontiers et donner 2, 3, 4 bêtes, des fois, eh bien, celui qui, à mon avis, refusait, il payait cher, parce que c'était le double qu'on en prenait chez lui. Et ça, on lui faisait payer, disons, sa non-assistance à la résistance.
C'était le tarif.
Voilà.
Vous parliez il y a quelques instants de résistants légaux et illégaux. Il faut rappeler que la propagande de Vichy et nazie vous faisait passer pour des terroristes.
Oui. Nous étions tous des terroristes. Mais alors là, lorsqu'ils nous traitaient de terroristes, moi, ils ne me donnaient pas la Légion d'honneur, mais ils me faisaient un grand plaisir. Parce que pourquoi? Eh bien, oui, terroristes, pour ramener la République, la démocratie, c'était quelque chose pour nous qui était énorme. Et nous nous sommes engagés pour ça.
Et quel était votre rôle?
général ou...
Oui, votre rôle précis dans le,
alors,
le réseau.
Disons, il n'y avait pas de rôle précis. Il n'y avait pas de rôle précis parce que, bon, ben, pour le renseignement, les nazis avaient fait à Gonfaron, par exemple, ce qu'ils appelaient une charcuterie, qui faisait une charcuterie pour l'ensemble du département, ou tout au moins la moitié du département. Et ils avaient naturellement des Français qui n'étaient pas travailleurs automatiques. Non, ils avaient été réquisitionnés. Et moi, j'avais un ami, Blaise Ferro, qui, lui, faisait la distribution. Et j'avais demandé à Blaise, j'ai dit, tu notes sur un papier à chaque localité combien tu mets de rations. Alors, la première fois, je me rappellerai toujours, il m'a regardé comme ça, et à Moulanio, qu'est-ce que tu veux que ça te fasse, hein? Et après, je lui ai dit, eh bien, le nombre de rations, c'était le nombre de nazis qu'il y avait dans chaque localité. Et ça, c'était le renseignement. Un renseignement que, bon, était facile, mais très efficace. Et c'est un peu comme ça. Alors, ça, c'était le renseignement. Ensuite, bon, on a fait à deux reprises, pas dérailler des trains, mais on a coupé deux fois entre. La première fois, c'était entre Pignan et Gonfaron qu'on a coupé la voie. Et on avait récupéré, là, ce jour-là, je me rappelle très bien, des explosifs de la mine du Toronnet, qui nous avait, les mineurs nous avaient fourni la dynamite. Ça a fait des dégâts, mais sans trop. On n'a pas été content pour ce travail.
Pas trop de sabotage.
Non, c'est pas un sabotage qui a été efficace. Parce que ça a coupé, je crois, la voie pendant 48 heures. Ce n'était pas quelque chose de très important. Alors, la deuxième fois, ça a été autre chose. Là, on a fait appel aux cheminots de Carnot, le résistant, qui nous ont donné pour dévisser. Et là, alors, on a fait un travail très efficace. On a fait un travail très efficace parce qu'on déboulonnait les boulons, ils partaient dans les vignes là-bas, hein, on les jetait le plus loin possible, les traverses également, les rails également. Et disons que pendant, je crois qu'on a déboulonné peut-être 30 ou 40, ou peut-être plus, mètres de voies qui ont été, disons... Là, le travail a été efficace.
Et de quoi bien perturber, on va dire.
Oui, voilà, exactement. Voilà. Ensuite, bon, ben, on l'a fait ensuite entre Le Luc et Gonfaron. Aussi, ça a été assez efficace. Je disais tout à l'heure que, bon, aussi, nous avions fait des interventions à ceux qui faisaient du marché noir. Hein. Disons, voilà, un peu assez vite dit. Ce que nous faisions dans la résistance.
Et quelles étaient vos méthodes pour recruter ?
Pour recruter ?
Oui.
Vous étiez, je crois, dans le recrutement pour, non, pour avoir de nouveaux agents
non.
Dans le réseau ?
Non, non, non. On ne recrutait pas. Parce que, justement, du point de vue sécurité. Seulement lorsqu'il y avait, par exemple, un jeune qui voulait s'engager et rentrer dans le maquis. Alors, on avait une personne à Gonfaron, Madame Pastorino, qui le gardait pendant 48 heures. Et pendant 48 heures, eh bien, nous allions le questionner pour essayer de voir, parce que aussi il y avait les nazis qui essayaient d'infiltrer la résistance. Comme nous aussi, en tant que résistants, nous essayions d'infiltrer la Gestapo. D'ailleurs, ça a pas mal marché, je vous le dirai tout à l'heure. Et disons que voilà un peu aussi notre rôle. Hein. Tout se faisait comme dans un seul esprit. Tous les résistants avaient le même esprit. Et ça, c'était une force que la Gestapo et les nazis ont peut-être sous-estimé. C'est-à-dire que cette force, elle a grandi et elle les a mis hors de nuire.
Quels étaient vos contacts ?
Alors, mes contacts, c'était un seul contact, c'est-à-dire non, pas un seul, deux contacts. Le contact était le responsable du LUC, qui déléguait quelqu'un pour m'apporter les messages. Voilà. Moi, c'était les deux que je connaissais sans plus. Et ça, c'était aussi du point de vue de la sécurité, parce que c'était très, très important. Vous savez, jeunes gens, quand je sortais de la maison pour aller prendre les sacs de pain et les porter là-bas, et que quand, chaque jour, je partais au travail, il me semblait que quand j'ouvrais la porte, il y avait d'un côté comme de l'autre quelqu'un qui allait m'attraper et m'arrêter. Et ça, j'avais beau essayer de me le lever de l'esprit, c'était quelque chose de permanent chez moi, et c'était ce qu'on appelle la peur. Et celui qui n'a pas peur, à mon avis, n'hésite pas.
Elle est naturelle, la peur, dans ces conditions.
Quelle était la moyenne d'âge dans le maquis ?
La moyenne d'âge dans le maquis, on peut la mettre autour de 25 ans. Parce qu'il y avait des jeunes qui n'avaient pas 25 ans. Et puis il y avait d'autres personnes, par exemple Belon, le responsable du maquis, lui était un homme qui avait déjà 30-35 ans. Hein ? Et disons qu'il y en a eu plusieurs, comme lui, hein, qui étaient, ont été les responsables du maquis. Et disons que Belon, qui a été déporté, qui a été arrêté, et qui a été déporté, il n'est pas revenu, malheureusement. Eh bien, c'était quelqu'un de formidable. C'est un ancien syndicaliste de Toulon, qui s'est engagé dans la résistance. Et disons que on a connu Belon. Lorsqu'il a été arrêté une première fois et interné à Marseille. Et à Marseille, il a réussi à s'évader. Et il est arrivé dans le coin, je ne sais pas comment. C'est, disons, une résistante, une femme résistante, Yolande Martini, avec sa sœur Henriette, parce que ça aussi, on n'a jamais trop parlé des femmes dans la résistance, et pourtant, elles ont été là, et elles ont soutenu particulièrement ceux qui résistaient. Et qu'à partir de là, bon, ben, on a reconnu Belon. C'est Yolande Martini qui, un jour, en allant travailler à la mine de Pie Martin, elle l'avait connu, parce qu'elle aussi était une syndicaliste. Et lui marchait, Belon, et là, elle le reconnaît, elle le fait arrêter, la camionnette qui transportait le personnel pour la mine. Et lui, il lui dit, bon, ne dis pas mon nom, hein, voilà, et alors, elle l'a fait monter dans la camionnette. Elle l'a gardée chez elle, avec Charles, son mari, pendant 3 ou 4 jours. Et Belon, ensuite, a été dans la résistance. Et la première résistance, jeunes gens, c'était des jeunes gens de Sainte-Maxime qui étaient rentrés en résistance et qui ont été pourchassés par comme les CRS actuellement, mais qui étaient, disons, ouais, les GMR. Hein, voilà. Et c'est comme ça aussi qu'a été créé le maquis. Ce sont les jeunes, une partie des jeunes qui sont venus là, au-dessus de la mine de Saint-Domas, et c'est Belon ensuite qui a créé, disons, cette... Dans un premier temps, je dirais, commencement 43, hein, il devait être une cinquantaine, peut-être pas même, et disant que lorsqu'ils ont essaimé, disons, c'était, ils étaient entre 180 et presque 200. Je ne sais pas si vous vous posez la question, jeunes gens, de faire manger et d'apporter à manger pour qu'ils ne crèvent pas de faim ces garçons qui étaient rentrés dans le maquis. Là. C'était quelque chose de formidable. Je n'ai jamais réussi, j'ai essayé à mettre sur papier, je n'ai pas réussi, dans l'idée, quelquefois, ça me revient, mais tout ce qu'on a pu faire pour essayer de nourrir, je dirais normalement, les gars du maquis. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très, très, très important.
Vous avez devancé en fait une des questions des élèves qui portait justement sur les femmes, sur l'implication des femmes. Alors, et dans le réseau auquel vous apparteniez, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de plus sur
oui.
la participation de ces femmes dans la résistance?
Oui. Alors, dans la famille de Yolande Martini et de sa sœur Henriette, et je parlerai de sa mère, de leur mère. Parce que lorsque tout à l'heure, je vous disais que lorsqu'il y avait un jeune qui voulait rentrer dans le maquis, c'est chez la mère de Yolande Martini et d'Henriette hein, que ça se passait. Et disons que Yolande a été celle qui avait la responsabilité qui, du point de vue d'aider moralement ceux qui étaient dans le maquis, recevait le courrier des parents du maquis. Et ensuite, elle le distribuait à Boulogne et qui lui donnait...
Avec toutes les précautions qu'on imagine.
Avec toutes les précautions et malgré toutes les précautions, il y a eu une fois, heureusement, qu'on tombait sur des gendarmes qui avaient l'esprit républicain et qui étaient... C'était au Luc. Il y avait deux jeunes gens qui étaient partis se balader au Luc. Et ils sont arrêtés. Et sur eux, qu'est-ce qu'on voit? La lettre de leurs parents qui leur parlait. Et là, Yolande a eu, non pas une chance, mais quelque chose de redevable par rapport à ces deux gendarmes qui sont venus la voir et qui lui ont dit, Madame Martini, si vous ne faites pas plus attention... Et il lui donne la lettre. Alors là, Yolande, je me rappellerai toujours lorsqu'elle me racontait ça, elle a blêmissé encore. Et disons que voilà, ça c'était aussi... Mais c'était Yolande, la personne qui aidait moralement, et ils en avaient besoin, ce qui était dans le maquis. Henriette, alors elle, c'était autre chose. Henriette, elle faisait la navette entre Toulon et comme pharaon, et elle transportait dans sa valise des tracts, elle a transporté des armes, des explosifs, et je me rappellerai toujours, on était un jour en discussion tous les deux, là, elle me disait, c'est René, le jour où j'ai eu une grande peur, c'est le jour à Toulon, où un officier nazi, Lacoste, elle avait la valise. Alors, il faut bien dire, Henriette était une très belle femme. Et l'officier nazi, naturellement. Hein, alors, me dit, lorsqu'il a pris ma valise, j'ai eu peur qu'elle s'ouvre et qu'il voit ce qu'il y avait dedans. Et là, elle me dit, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais ce que j'ai eu, c'est une très, très grande peur. Et ça se conçoit, parce que, et disons qu'elle a pris son car et elle a ramené encore, voilà. Et mais le rôle des femmes, je dirais même, celle qui n'était pas dans la résistance, et qui était la femme d'un résistant, qui savait, à mon avis, eh bien, elle jouait aussi un rôle qui était très important du point de vue de la sécurité, hein, en ce qui concerne les résistants eux-mêmes.
Et qu'il fait que nous avons bien raison de rappeler.
Comment s'organiser la vie clandestine?
Je ne sais pas comment il faut répondre à cette question, mais je crois que pour donner une idée, nous mettions en œuvre, disons, parce que ce qu'il faut, jeunes gens, que vous sachiez, c'est que actuellement, vous entendez vivre ensemble, laïcité, Kézako. Eh bien, nous, résistants, nous étions conscients que le mot laïcité était quelque chose pour nous qui nous empêchait d'être pris et de travailler pour la sécurité. Pourquoi ? Je vous explique. Prenons par exemple la liberté absolue de conscience. La liberté absolue de conscience, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se présente à chacun, qui l'analyse et qui prend sa décision, hein, par ensuite sa liberté d'expression ou sa liberté de penser. Et ça, je crois que les résistants l'avaient pris à eux. C'est-à-dire qu'ils analysaient leur situation, chacun analysait sa situation, et chacun rapportait l'analyse qui était la sienne. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense que c'est quelque chose, quand je dis que ce sont les résistants qui ont appliqué le plus honorablement possible, eh bien, le concept de laïcité. Et ça, je crois qu'il faut que ça se sache aussi.
L'application des valeurs républicaines, mais concrètement.
Exactement.
Pas que des mots, mais des actes.
Avez-vous été trahi, arrêté ou attaqué ?
Non. Je n'ai jamais été arrêté. J'ai eu peur une fois, oui. J'étais avec Blaise, celui qui me donnait les renseignements, là, hein, du nombre de nazis. On était au bar au Luc. Et heureusement que lui, en travaillant pour les nazis, eh bien, connaissait la Gestapo. Et à un moment donné, on était en train de boire tous les deux. Il me prend par la main et il me fait signe qu'on s'en aille. Sans dire un mot, sans rien du tout. Moi, j'ai compris. On est sortis tous les deux et lorsqu'on est sortis, la première rue, on a pris en courant. Hein. Et au bout de la rue, il m'a dit, c'était la Gestapo. Et ça, disons que non, je ne savais pas, mais disons, voilà la seule fois où j'aurais pu être embêté.